Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
Le fait que pour l'instant, nous n'ayons pas retrouvé Vanille, nous sommes inquiets.
Alerte enlèvement toujours en cours à Angers après la disparition de la petite Vanille. Un an, alerte déclenchée hier soir. Sa mère, elle, a été retrouvée dans un hôtel à Nantes. Elle est désormais en garde à vue. La ministre de la Santé en Haute-Savoie, après l'annonce hier de 5 cas de coronavirus, Agnès Buzyn, qui est venue rassurer les habitants.
Il n'y a aucun risque, évidemment, quand on croise les gens dans la rue. Ce n'est pas cela, être en contact d'une personne contaminée.
Et notez qu'un nouveau groupe de 38 Français de retour de Chine est attendu dans la journée à Aix-en-Provence pour être placé en quarantaine. 35 départements en vigilance orange avec l'arrivée de la tempête Ciara et certains habitants près de Valenciennes dans le Nord qui préfèrent se calfeutrer.
Bon ben, moi, je ferme tout parce que je ne prends pas de risque.
Vous entendez le vent, comment il souffle?
Oui, j'ai peur, j'aime pas le vent.
On fera point bien sûr avec Valérie Darmon qui nous dit que c'est dans l'Est, entre les Hauts-de-France et la Lorraine, qu'on attend les vents les plus violents. La conférence nationale sur le handicap, c'est mardi. Les associations attendent des mesures concrètes. On en parlera avec mon invité Riyad Salem, entraîneur associatif multimédaillé aux Jeux paralympiques qui se bat au quotidien pour que le regard de notre société change sur le handicap.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Toujours aucune trace de la petite Vanille, presque deux jours après sa disparition à Angers. L'alerte enlèvement déclenchée hier soir est toujours en cours. Et il y a une demi-heure maintenant, le procureur de la République d'Angers a annoncé, Salomé Legrand, que la mère de l'enfant avait été retrouvée.
Et oui, un signalement de l'alerte enlèvement a permis de retrouver cette femme de 39 ans tôt ce matin à une centaine de kilomètres d'Angers dans un hôtel de Nantes sans sa petite fille d'un an. Les recherches se poursuivent donc et l'inquiétude grandit. La mère a été placée en garde à vue mais elle est très fragile psychologiquement sous traitement médicamenteux, explique Carole Dugast, substitut du procureur à Angers.
Il faut installer un climat de confiance entre elle-même et puis les enquêteurs. Là, actuellement, elle est examinée par un médecin pour comprendre l'état dans lequel elle est. Le fait que pour l'instant, nous n'ayons pas retrouvé Vanille, nous sommes inquiets parce que nous allons avoir besoin de comprendre la psychologie et le psychisme de cette maman et ça va être vraiment l'enjeu de cette garde à vue.
Cette mère qui est d'abord restée mutique a tout de même livré plusieurs endroits où elle aurait pu laisser sa fille, des lieux peu précis que les enquêteurs sont en train de vérifier.
Alors une question se pose aussi, Salomé Legrand, pourquoi on a attendu plus de 24 heures pour déclencher cette alerte enlèvement ?
Eh bien, d'abord parce que la disparition n'est pas immédiatement inquiétante. La mère a pu oublier l'heure ou aller au mauvais endroit pour remettre sa fille à l'aide sociale à l'enfance. Sa fille qui est placée depuis la naissance et avec laquelle elle avait un droit de visite de 48 heures. Il n'y avait eu aucun souci lors des précédents temps entre la mère et sa fille, a rappelé le procureur tout à l'heure. Les policiers ont donc d'abord vérifié les différents points de chute où elle pouvait se trouver. Et c'est en découvrant des écrits potentiellement inquiétants, doublés des tendances suicidaires de la mère, que les autorités ont décidé de lancer cette alerte, donc plus de 24 heures après. Une alerte autour de Vanille, un an, petite fille métisse qui mesure un mètre, a les cheveux brun foncé, court et frisé. Une photo est mise en ligne sur les réseaux sociaux. Si vous disposez d'informations, ils font composer le 197.
Et je vous rappelle donc ce numéro que vous donnez à l'instant, Salomé. Si vous localisez l'enfant, il faut composer évidemment immédiatement le 197.
Europe 1 midi 34, à la suite du journal, Fabienne Lemoelle.
Agnès Buzyn aux Contamines-Montjoie ce matin pour rassurer les habitants après ces 5 nouveaux cas de coronavirus annoncés hier. Depuis ce matin, des tests sont en cours pour les personnes qui auraient été en contact avec ces 5 personnes hospitalisées, dont on va le rappeler que leur état n'inspire pas d'inquiétude. Cyril de la Morinerie, vous êtes sur place pour Europe 1.
Oui, et plusieurs dizaines d'habitants, en effet, inquiets, viennent depuis ce matin passer un test pour savoir s'ils sont positifs au coronavirus. 200 personnes au total seront reçues dans cette salle communale sur les hauteurs du village. Des familles prévenues par l'ARS et dont les enfants sont scolarisés dans l'établissement fréquenté par le jeune malade britannique. Cette maman est venue avec sa fille qui est dans la classe de la petite sœur de l'enfant contaminé.
Comme elle a des symptômes de grippe, ce matin on est allé faire détecter la petite pour savoir ce qu'il en était. On attend les résultats qui devraient arriver dans 48 heures maximum.
Comment se passe ce test ?
C'est un coton-tige qui est mis dans le nez de l'enfant. On est tous là avec des symptômes de grippe plus ou moins, donc c'est l'hiver, on est à la montagne, donc c'est souvent comme ça. Là on attend et c'est pour être rassuré.
Alors à l'intérieur de ce centre de détection, il faut d'abord se laver les mains, répondre à un questionnaire en présence d'un médecin infectiologue de l'hôpital d'Annecy, puis subir un prélèvement. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rencontré ce matin ses familles. Elle s'est rendue dans ce centre pour tenter de les rassurer.
Il n'y a aucun risque, évidemment, quand on croise les gens dans la rue. Ce n'est pas cela, être en contact d'une personne contaminée. Il faut un contact étroit, soutenu, il faut se toucher. Donc aujourd'hui, les risques sont évidemment très faibles pour l'ensemble de la population.
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, va se rendre maintenant à Saint-Gervais, dans la commune où se trouve la deuxième école fréquentée par le jeune malade britannique, et à l'hôpital de Grenoble, où se trouvent un papa et ses enfants. Mais dans la station, ici où on contamine, la vie suit son cours. Mis à part quelques annulations dans certains hôtels, et bien les vacanciers veulent profiter des pistes de ski et du magnifique soleil aujourd'hui.
Et Cyril de la Morinerie, en direct de Contamine Montjoie en Haute-Savoie pour Europe 1. Par ailleurs, un groupe de 38 Français de retour de Chine est attendu dans la journée à Aix-en-Provence. Cela fait déjà une semaine que deux autres groupes sont en quarantaine dans le sud de la France. Alors comment leur vie s'organise ? Caroline Baudry.
Lecture en plein air ou partie de volley-ball, les quelques 200 rapatriés ont quartier libre dans le centre de vacances de Carry-le-Rouet, à condition de porter un masque dès lors que l'on sort de sa chambre, le changer toutes les 3 ou 4 heures et prendre sa température deux fois par jour. Des consignes sanitaires respectées dans une ambiance sereine, décrit Marc Zitman, le responsable Croix-Rouge sur place.
Le moral est au beau fixe, comme le temps. Et puis, je pourrais vous dire qu'il y a un véritable esprit de solidarité qui s'est développé parmi les rapatriés, puisqu'on a organisé une classe de maternelle le matin, avec la participation de deux enseignants qui sont eux-mêmes rapatriés, qui nous ont proposé leur service. Et c'est quelque chose qui fait plaisir parce que finalement, la vie reprend son cours.
Une salle de télétravail est à la disposition des adultes. D'autres en profitent pour suivre une formation au premier secours. Chacun prend son mal en patience, le risque de contamination diminuant au fil des jours. Pour l'instant, aucun cas de coronavirus n'a été détecté parmi eux. Des résultats annoncés hier sous les applaudissements des rapatriés qui devraient retrouver leurs proches dans une semaine.
C'est donc mardi qu'aura lieu la conférence nationale sur le handicap, rendez-vous très attendu par les associations qui veulent des mesures concrètes, alors qu'Emmanuel Macron a fait du handicap une des grandes causes de son mandat. Parmi les chantiers où il reste beaucoup à faire, il y a l'accès au travail pour les handicapés. Et pour Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée de ce dossier, le fameux quota de 6% de personnes atteintes d'un handicap que doivent employer les entreprises ne suffit pas, il faut un vrai accompagnement.
C'était un quota qui date de 1987. D'autres pays d'Europe ont choisi de ne pas avoir des quotas et force est de constater que partout en Europe, on est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon.
Donc le quota, finalement, ce n'est pas un bon système.
C'est un système indispensable pour changer les choses, sur lequel on peut s'appuyer, mais il faut faire plus. Et il faut accompagner les entreprises. C'est tout l'enjeu de l'emploi accompagné. Si une personne a un handicap psychique, qu'elle rentre dans l'entreprise, qu'elle n'a pas un service d'emploi accompagné à côté d'elle, quand elle aura une baisse d'activité due à son handicap, l'entreprise sera excessivement fragilisée et souvent ça va vers de la désinsertion professionnelle ou un licenciement. C'est ce qu'on ne veut plus. Donc on développe l'emploi accompagné, on développe l'apprentissage et on bonifie à chaque fois la problématique du handicap. On augmente le compte formation spécifiquement pour les personnes handicapées. 90 000 travailleurs handicapés sont partis en formation, ceux qui étaient en demandeur d'emploi. Le maître mot, c'est qualification accompagnement.
Et Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Cette conférence nationale sur le handicap, on y reviendra avec mon invité Riyad Salem, entrepreneur associatif multimédaillé aux Jeux Paralympiques. Il est mon invité dans un quart d'heure sur Europe 1. À suivre, ce sont 35 départements qui sont en vigilance orange dans l'attente de la tempête Ciara. Et dans un instant, nous serons près de Valenciennes où certains habitants commencent à se calfeutrer.
Midi 41, vous écoutez le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoelle.
Et ça commence déjà à souffler fort dans le nord de la France avec déjà des pointes à 120 km/h au Cap Griné dans le Pas-de-Calais. Prémisse de la tempête Ciara qui va prendre de la vigueur dans l'après-midi, nous dira dans un instant Valérie Darmon, avec déjà 35 départements en vigilance orange. Résultat à Orchy, près de Valenciennes, ce sont des habitants qui commencent à se calfeutrer que notre correspondant Maximilien Carlier a rencontré ce matin.
Bon ben, je ferme tout parce que je prends pas de risque. Parce que vous voyez, je pars et puis je peux pas rester comme ça, je vais pas être tranquille.
Léonie, 75 ans, fait le tour de sa maison, elle ferme les volets, vérifie son jardin.
Vous entendez le vent, comment il souffle ? Si je m'en vais voir mes poules, parce que j'en ai une toute petite, j'ai peur qu'elle s'envole, c'est marrant, mais
Voilà. Allez les fifis, on mange.
Cette retraitée est également très inquiète pour sa serre.
J'ai peur qu'elle casse et qu'elle s'envole. Vous entendez comment ça claque ?
Léonie espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Elle a de mauvais souvenirs de la tempête il y a 3 ans.
Oui, j'ai peur. J'aime pas le vent. J'aime pas le vent parce qu'en 2017, on a eu la même tempête ici. Et j'ai le chapeau de ma cheminée qui s'est retrouvé sur le pavé. Heureusement qu'il n'y avait personne. Parce que ça aurait été une catastrophe.
Et cette retraitée va passer la journée chez une amie car elle ne se sent pas capable de rester seule dans sa maison alors que c'est la tempête. Orchi, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et dans 5 minutes, nous ferons un point complet avec Valérie Darmon pour voir quelle forme va prendre cette tempête qui va souffler particulièrement fort dans l'est de la France. Au lendemain de sa démission, Didier Gayaguet était l'invité de la matinale d'Europe 1 et au micro de Bernard Poirette, l'ancien président de la Fédération des sports de glace, a expliqué dans quel contexte il avait pris cette décision.
Et je crois que c'est surtout une sorte de vindicte populaire qui est tournée vers cette fédération, uniquement d'ailleurs, c'est surprenant. Le Conseil fédéral a été, il n'était pas d'ailleurs réuni, c'était un Conseil fédéral et les présidents de ligue étaient réunis.
Donc votre démission n'a pas été mise au vote?
Absolument pas.
C'est vous qui d'entrée avez dit, bon allez, on arrête les frais parce qu'on n'arrivera pas à décoincer,
oui,
le truc.
Oui, tout à fait, je ne veux pas être un frein à ma fédération, bien au contraire, ou à ces clubs, parce que les clubs aussi, les présidents souffrent, et surtout pas aussi à ceux à qui j'ai consacré près de 40 ans de ma passion, c'est-à-dire des sportifs de haut niveau. Il y a 6 championnats du monde qui arrivent dans les 2 mois. Je l'ai pensé d'ailleurs depuis le début de cette affaire, qu'à un moment ou à un autre, je serais amené à démissionner.
Didier Gayaguet ce matin avec Bernard Poirette.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
France-Italie, 2e journée du tournoi des 6 nations. Après avoir battu les Anglais dimanche dernier, les joueurs de Fabien Galthié apparaissent comme les favoris face aux Italiens, forcément.
Oui, les Italiens qui n'ont plus gagné un seul match dans le tournoi des 6 nations depuis 5 ans. Les Français, eux, vont aligner une équipe quasi identique à celle qui a battu les Anglais, une équipe jeune donc, mais qui a montré de belles choses. Fabien Galthié, le sélectionneur, se moque à sa manière des critiques sur la jeunesse de ces Bleus.
Oui, vous en avez parlé énormément. On vous en parlait moins là maintenant, justement. On a l'impression qu'en un match, elle a pris 10 ans. Et sûrement qu'elle a pris un peu de maturité. Pas 10 ans. Mais vous savez, des fois, la jeunesse, ce n'est pas un handicap, ça peut être aussi un atout. Lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on partage la même ambition, il n'y a pas de raison que la jeunesse soit un problème.
Fabien Galthié avec Simon Rubin, match à 16h au Stade de France avec des rafales de vent attendues qui devraient rendre aléatoire le jeu au pied.
Il y a toujours la tempête Ciara dont on parlera dans un instant. Au football, 3 matchs au programme pour clôturer la 24e journée de championnat.
Montpellier, Saint-Etienne à 15h, Strasbourg, Reims à 17h et l'affiche ce soir de cette journée de Ligue 1, PSG Lyon à suivre dans Europe 1 Sport.
Et puis en tennis, Gaël Monfils va tenter de remporter le tournoi de Montpellier.
Le Français affronte à partir de 14h30 en finale le Canadien Vasek Popsisil, 132e joueur mondial, c'est pas le plus connu du plateau. Et puis en ski alpin, on suivra le géant parallèle de Chamonix comptant pour la Coupe du Monde. Alexis Pinturo a passé sans encombre les qualifications ce matin. En revanche, Clément Noël, vainqueur du slalom hier, a été éliminé.
Et si je vous dis 6m17, vous me répondez que c'est
le nouveau record du monde de la perche. Armand Duplantis, l'américano-suédois de 20 ans, a battu hier en Pologne ce record qui appartenait à Renaud Lavillenie, 1 cm de mieux pour Duplantis, après avoir échoué de peu mardi dans une première tentative de battre ce record. Jean-Claude Perrin, le spécialiste athlétisme d'Europe 1, ne le voit pas s'arrêter là.
Sa force actuellement, c'est la liaison entre la course, c'est-à-dire la vitesse, et le décollage. Il passe la barre sans la toucher, il domine véritablement son saut avec une aisance. Je pense que il va continuer parce qu'il tente 2 fois en 4 jours et il bat le record du monde et il ne va pas s'arrêter là.
Jean-Claude Perrin, le monsieur athlétisme d'Europe 1, joint par Caroline Baudry.
Et une bonne nouvelle, les basketteuses françaises verront Tokyo.
On a écouté le public français hier soir à Bourges.
Ah oui, forcément. Tokyo, pour les JO, voilà. Ouais,
grâce
oui,
à leur
mérite,
succès
hein.
Contre les Brésiliennes, hier les Bleus ont décroché leur billet pour les JO. Elles avaient déjà battu dans ce tournoi de qualification disputé à Bourges les vice-championnes du monde australiennes jeudi et disputeront pour du beurre un dernier match aujourd'hui face à Porto Rico.
Merci beaucoup Axel May. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche.
Pour une installation soignée de vos fenêtres, portes et volets, faites confiance à Arcadébé. Arcadébé vous présente la météo.
Et avec mon studio Valérie Darmon et cette tempête si Sahara qui s'annonce déjà 35 départements en vigilance orange. Et on l'entendait dans le journal, ça souffle déjà fort dans le nord.
Eh oui, avec des rafales de vent particulièrement violentes depuis ce milieu de matinée le long de la Manche. Et ce soir, sur les Ardennes et les Vosges, Météo France a déjà relevé ce matin des pointes à 136 km/h à Gadeville-le-Phare, par exemple. Vous parliez du Cap Griné avec 120. Les vents ne cessent de se renforcer considérablement le long des côtes, mais aussi dans l'intérieur des terres. On a aussi relevé 100 km/h à Caen, 90 à Arras, 60 à 70 entre Rennes, Alençon, Rouen. Et ces vents qui vont s'étendre au bassin parisien dans l'après-midi pour souffler à 90 km/h. En soirée, dans les Ardennes, les Vosges, la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine, c'est dans la partie est que ça va souffler le plus fort. 160 km/h sur les reliefs vosgiens en fin de nuit, 130 en Moselle aux alentours de 22h, 120 à 140 dans le nord-ouest de nouveau avec un nouveau renforcement du vent en fin de nuit aussi. Et ne circulez pas le long du littoral depuis la Vendée jusqu'au Pas-de-Calais parce que les coefficients de marée sont très élevés. 98 pour ce dimanche soir, 103 pour demain. Le risque de submersion est sévère, donc prudence sur ces régions.
Merci Valérie Darmon pour ces conseils de prudence. On vous retrouvera bien sûr très longuement dans le 18-20 ce soir pour faire un nouveau point sur cette tempête Ciara. À suivre, je vous le disais, c'est donc mardi qu'a lieu la conférence nationale du handicap. Emmanuel Macron a fait de cette question une priorité de son quinquennat. Les associations attendent beaucoup, beaucoup plus que de simples paroles, des avancées concrètes. On en parle avec mon invité Riyad Sadem, entrepreneur associatif, sportif de haut niveau, athlète multimédaillé aux Jeux paralympiques et qui intervient aussi en milieu scolaire et qui veut que le regard change dans la société.
Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit sur Europe 1. C'est l'heure à présent d'accueillir votre invité Fabienne Lemoyle.
Et c'est donc mardi qu'a lieu la conférence nationale du handicap. Emmanuel Macron a fait de cette question une priorité de son quinquennat. Sa parole est très attendue. Le collectif handicap qui regroupe 47 associations le dit clairement dans une tribune. On ne veut pas uniquement des déclarations de solidarité de l'humanité, on veut des avancées concrètes. Bonjour Riyad Sadem.
Bonjour.
Vous êtes entrepreneur associatif sportif de haut niveau en rugby, fauteuil, basket, natation. J'avoue que ça force le respect. Vous intervenez aussi régulièrement au milieu scolaire pour sensibiliser les plus jeunes au handicap. J'ai d'abord envie de vous demander, vous qui vous battez au quotidien pour qu'on ne regarde pas les handicapés comme une communauté à part, pour bien montrer que vous vivez dans la même société que les valides, qu'est-ce que vous attendez de cette conférence de mardi qui peut apparaître aussi comme une grande messe?
J'en attends l'objectif d'un grand événement, d'avoir des annonces claires et que le monde médiatique, le monde, parce que j'ai entendu Madame la Ministre parler aussi...
Qui était l'invité du grand rendez-vous européen
exactement,
ce matin.
De toute l'administration qui puisse se mettre un petit peu en ordre de combat sur ce sujet.
Alors voilà. Justement, il y a un chantier très concret. Symboliquement, cette conférence, elle a lieu 15 ans après la loi emblématique d'un autre président qui avait fait du handicap une priorité, Jacques Chirac.
C'est Chirac.
Avec une loi qui prévoyait, on va être très concret, une société accessible à tous, entre autres cette mise aux normes des bâtiments, des transports. On en est loin aujourd'hui.
Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait. Hein. Alors moi, je ne suis pas le type de personne qui va taper. J'aime dire ce qui est. Il y a énormément de villes qui se sont investis, énormément d'entreprises. Le grand souci, c'est qu'à l'époque où il y avait cette loi qui avait été positionnée avec des gros budgets, la grande erreur, c'est que beaucoup de personnes ne se sont pas saisies à ce moment-là. 10 ans, on a le temps. Sauf que la crise de 2008-2009 est arrivée, et là, il n'y avait plus de sous. Et donc, quand on n'a plus de sous, même si la volonté est là, c'est très compliqué de pouvoir enclencher la politique qu'on souhaite mener.
Pourquoi c'est important, cette accessibilité? Justement parce que ça peut concerner tout le monde quand on voit le vieillissement de la société?
L'accessibilité, elle est importante parce que c'est un choix de civilisation. C'est qu'est-ce qui fait société? Aujourd'hui, on arrive à sauver des vies qu'on ne sauvait pas avant. On en fait quoi de ces vies? Aujourd'hui, on prolonge la vie. On en fait quoi de cette vie? Pour rester enfermé quelque part? Je ne vois pas l'intérêt de ça. Si demain, l'accessibilité, la mobilité, le respect des vulnérabilités est ancré dans la société, évidemment qu'il nous faut de l'accessibilité. On ne doit pas être condamné doublement parce que la maladie, parce que l'accident, parce que la vie, tout simplement.
La ministre disait ce matin, c'est une personne sur cinq qui peut être touchée par un handicap, effectivement, au long de sa vie.
Alors,
finalement, ça concerne tout le monde.
On est tous des handicapés en sursis, donc ça concerne vraiment tout le monde, elle a complètement raison là-dessus. Donc, on fait quoi de tout ça? sauver une vie, c'est bien, mais si on est des morts vivants à attendre la mort, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Donc au contraire, il faut aller jusqu'au bout de cette démarche. L'accessibilité universelle, elle est fondamentale pour nous tous.
Ça passe par quoi, concrètement ?
Ça passe par comprendre tout simplement que de faire une porte plus large, que de mettre un ascenseur, que d'avoir des gens qui parlent la langue des signes, que d'avoir des gens qui comprennent la différence avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, cognitives ou psychiques. Tout ça, c'est des savoir-vivre ensemble. Et donc, il faut enclencher. Il n'y a pas que quelque chose qui est... Même le monde médical, aujourd'hui, se retrouve coincé parce que l'accessibilité universelle n'est pas là. C'est-à-dire que le corps médical, aujourd'hui, si vous avez un handicap particulier, vous ne pouvez pas, si vous êtes une femme tétraplégique, aller chez n'importe quel gynécologue. Vous ne pouvez pas, si vous êtes trisomique, aller chez n'importe quel dentiste ou myopathe. Donc voilà, il faut que cette accessibilité universelle soit partout, dans tous les métiers.
Il y a une chose qui est importante aussi, Riyad Salem, vous êtes en fauteuil roulant, mais le handicap, ce n'est pas qu'un fauteuil roulant, c'est parfois quelque chose qui est invisible, c'est plusieurs formes le handicap en fait.
Évidemment, le handicap, c'est pas que le fauteuil roulant. Le grand problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on a le logo du fauteuil. Et donc, on a tous focalisé sur ce logo du fauteuil. Et en France, je ne sais pas pourquoi, on met toilette handicapée, porte handicapée. Mais moi, si les toilettes sont handicapées et que je suis handicapé, je ne vais pas y aller. Alors que vous allez dans d'autres pays, il y a marqué « accessible ». Voilà. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. Le handicap, ce n'est pas que le fauteuil, mais le symbole du fauteuil, c'est que c'est le symbole de l'accessibilité.
Et cette accessibilité, c'est aussi le droit d'avoir un travail. C'est très important parce que je crois que vous avez vous-même une entreprise solidaire où 80% de vos collaborateurs sont handicapés. On l'a entendu dans le journal tout à l'heure.
Autant dans la société civile, j'aime pas qu'on dise situation de handicap, mais autant dans le travail, je préfère qu'on dise situation de handicap. Parce que sur la loi de 2005, on a énormément bataillé là-dessus. Donc quand on est dans le travail, on est juste en situation de handicap, mais on n'est pas handicapé pour ce qu'on produit et ce qu'on réalise. Et c'est là où on s'aperçoit que la qualité est au rendez-vous. On a des professionnels qui étaient dans le monde des médias avant, qui ont été un petit peu écartés de leur métier et que nous, on ramène dans ce monde-là, mais avec leur talent. C'est pas parce qu'on a des membres en moins ou qu'on a des moments de difficultés psychiques que le talent et toutes les études que vous avez faites ont disparu.
Il y a une chose qui est importante, vous intervenez, je sais, en milieu scolaire pour que le regard change. Qu'est-ce que vous dites aux plus jeunes, justement ?
Je leur dis que pour créer une société intelligente avec du cœur, il faut que la norme soit la différence. Parce que dans les écoles, souvent, ces enfants, ils sont codifiés. Si t'as pas telle marque, si t'es comme si t'es trop gros, trop maigre, avec des lunettes, si t'es roux, voilà. Et ça, c'est pas normal. Nous, on doit essayer de leur expliquer que la différence dans un pays qui a du cœur, qui est intelligent, c'est la norme. Et à partir du moment où on va comprendre ça, ils vont pouvoir s'accepter eux-mêmes et ne pas rejeter. S'ils ne s'acceptent pas eux-mêmes, ils vont rejeter l'autre. Et vous avez beau faire tous les programmes d'intégration, d'inclusion que vous voulez, c'est une question de culture.
Vous n'aimez pas ce terme d'intégration d'ailleurs, Riyad Salem.
C'est pas que j'aime pas, c'est que l'intégration ou l'inclusion, aujourd'hui, je trouve qu'elle est un peu pas juste, elle est à sens unique. C'est le monde du handicap vers le monde ordinaire. Mais pourquoi on ne ferait pas l'inverse ? Notre monde, il est plus accueillant. Mettre une rampe, mettre des portes plus larges. Pourquoi on ne viendrait pas dans le monde du handicap ? Et je pense que l'histoire, on a fait des ouvrages qui sont décryptés la différence, qui parlent de ça. C'est vraiment la civilisation humaine, elle est quand on s'attache aux plus vulnérables, aux personnes qui ont le plus de besoins. Quand le curseur il est placé là, alors c'est là où on est plus fort.
Une dernière question, Riyad Salem. Il y a des avancées qui sont faites. Il y a aussi la secrétaire d'État qui a redit ce matin qu'elle veut que les handicapés soient considérés comme des citoyens. Ça passe aussi par un droit à une vie intime, sexuelle. Elle a d'ailleurs saisi le Comité national d'éthique pour qu'il se prononce sur les assistants sexuels. Je sais parce que vous êtes venu avec un ouvrage, justement.
Oui, on a fait en 2010 un colloque à l'Hôtel de Ville sur affectivité, sexualité et dignité. Ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'ai eu les religieux, les féministes qui me sont tombés dessus parce que sur une table ronde, j'avais parlé de l'assistance sexuelle. Il faut vraiment se poser la question, comme je disais tout à l'heure, si on sauve la vie des gens, si on fait des foyers de vie, est-ce que vous pensez qu'une vie sans amour, sans affection, sans sexualité est une vie ? Pourquoi, à un moment donné, la chose la plus noble ? On est tous venus de là, de cet amour, de cette sexualité. On existe grâce à ça. Pourquoi ? Sur le sujet du handicap, ça serait un sujet tabou. On décide quasiment tout, de ce qu'on va manger, de comment on va s'habiller dans certains établissements. On nous lave, on est à nu. Et dès qu'il s'agit de quelque chose de positif, alors ça devient dramatique. Alors qu'on peut passer des guerres ou des choses comme ça, ça passe. Mais si on parle de sexualité et de handicap, ça devient un scandale. Et ça, c'est pas normal dans une société comme la nôtre.
Et on voit que Sophie Cluzel, en tout cas, a décidé de lever ce tabou en saisissant...
C'est courageux.
Voilà. Merci beaucoup, Riyad Salem, d'avoir été avec nous pour nous dire ce que vous attendez de cette conférence nationale qui a lieu mardi, de ce regard qui doit changer, on l'a bien compris. Et Europe 1 se mobilise d'ailleurs mardi pour vous faire entendre des témoignages
si
de la matinale.
Si vous m'autorisez, pas que le regard, les comportements, parce que j'ai entendu tout à l'heure le monsieur dire « Oui, mais telle personne a un gros handicap ». Parce qu'elle est femme dans une entreprise de, je ne sais plus, Suez ou quelque chose comme ça. Mmh. Il faut arrêter de mettre quelque chose de négatif. Le handicap, c'est un statut administratif qui représente une population qui a des besoins spécifiques. Et c'est important que ça ne devienne pas un verbe négatif. C'est-à-dire qu'on peut changer en disant « elle a des difficultés, elle a des problèmes ». Mais ce n'est pas du handicap.
Merci beaucoup. Merci. Et dans quelques minutes, vous retrouvez les carnets du monde avec François Claus.
Oui, exceptionnellement avec François Claus. D'ailleurs, nous irons en Angleterre 10 jours après le Brexit. 13h01. Avant d'ouvrir les carnets du monde, le rappel des titres de l'info sur Europe 1. Et c'est avec vous, Fabienne Lemoyle.
Et donc, l'alerte enlèvement toujours en cours à Angers, avec la disparition depuis plus de 48 heures maintenant de la petite Vanille, 1 an. Sa mère a été retrouvée, a annoncé il y a une heure maintenant le procureur de la République d'Angers, dans un hôtel à Nantes. Elle est désormais en garde à vue. En revanche, toujours aucune trace de l'enfant. Et donc, le dispositif alerte enlèvement qui est toujours en vigueur. 35 départements en vigilance orange avec la tempête Ciara qui s'annonce dans le nord de la France et des vents qui pourraient souffler jusqu'à 120 km/h. Des vents qui vont souffler particulièrement fort dans les Hauts-de-France et sur la Lorraine. Et puis les sports avec un saut à 6,17 m réalisé par le Suédois Duplantis qui a donc privé depuis hier soir le Français Renaud Lavillény de son précédent record.
Merci Fabienne Lemoyle, on vous retrouve bien sûr pour le journal de 18h ce soir aux côtés d'Oanny Bouchard. Europe 1.